Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux.
Bonjour.
Vous êtes le patron des patrons, le président du MEDEF. On va évidemment s'interroger avec vous sur l'impact de la crise énergétique, sur l'économie, sur la production française. On va parler aussi des permis de séjour qui devraient être donnés aux sans-papiers qui travaillent dans des secteurs en tension. Et on va parler de la réforme des retraites. Mais d'abord, cette question du prix de l'électricité, quel impact ? Vous dites redouter des délocalisations énergétiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises françaises seraient tentées de partir ?
Alors, c'est pas forcément des départs au sens fermeture d'usine, mais c'est des productions qui sont... Je vous donne un exemple très concret. J'ai parlé avec une entreprise de verre. Le verre, c'est un produit qui est resté assez local, c'est lourd à transporter. Mais la facture énergétique aujourd'hui, c'est fait avec des fours à l'électricité, est montée à 30 ou 35% du prix de revient. Et le patron du MEDEF de Seine-Maritime, du Havre, me disait qu'il perd des marchés face aux Asiatiques, puisque avec l'augmentation de l'électricité... le coût du transport est devenu moins important. Donc on voit, on commence à voir.
Soit il ferme son usine,
il a augmenté ses prix.
Dur, Alex.
Alors oui, il y a le cas extrême. Il y a quelques cas. Vous avez vu William Sorin. Pour le moment, c'est marginal.
Mais William Sorin qui a décidé de mettre sur pause. Quatre usines sur huit,
parce qu'elle perd de l'argent. Enfin, la société perd de l'argent. Mais on commence à voir des ralentissements de production. En fait, la situation, faut bien comprendre, il y a des gens qui sont couverts, c'est-à-dire ils ont un contrat à terme, donc le prix a pas augmenté. Et puis il y a ceux qui sont pas couverts ou en partie pas couverts. Et là, le facteur x4, x5, x6, enfin, il y a des augmentations massives, fait que dans certains cas, où on est plus compétitif en prix parce qu'on a augmenté les prix, où on est plus rentable. Et donc, effectivement, je crains ça. Et à terme, ça a été évoqué par Bruno Le Maire juste avant.
Qui était mon invité sur RMC ce matin.
Il y a le risque que ça parte aux États-Unis ou en Asie parce qu'il faut comprendre que le prix de l'électricité, il est local. Le prix du pétrole, il était mondial. Un baril de pétrole, ça vaut le même prix partout dans le monde. Quand le pétrole montait, ça montait pour tout le monde. Exactement. Voilà. Et donc, 74, choc pétrolier, mais choc pétrolier pour tout le monde. Donc, pas de problème de compétitivité. Là, le prix de l'électricité ne monte qu'en Europe. Et donc, c'est un problème européen, c'est pas un problème français.
Le contraste, évidemment, avec le prix que ça coûte de produire aux États-Unis ou en
États-Unis,
Asie, il est saisissant.
Mais bien sûr, aux États-Unis, ils ont massivement explosé le gaz de schiste. Donc, ils ont un prix du gaz et du pétrole qui est compétitif. Et donc, ils en tirent
un peu profit. C'est-à-dire que,
bien
en
sûr,
plus de ça, il y a non seulement le prix de l'énergie, mais il faut quand même, à un moment, on a vu les images d'embrassade avec Joe Biden. Mais la réalité derrière ça, c'est que c'est une vraie guerre économique.
Oui. Alors, je ne suis pas en train d'accuser les États-Unis d'avoir organisé, comme certains complotistes, la guerre en Ukraine pour en profiter. Mais la réalité, c'est qu'ils en profitent et que America First, ça n'a pas disparu avec Trump. Joe Biden nous paraît évidemment plus policé, si vous voulez.
Mais en fait, il a la même politique
Il a la même politique économique. Et c'est pour ça qu'il faut je sais que Bruno Le Maire, que Thierry Breton défendent cette position, mais malheureusement pas tout le monde en Europe, on est aussi Europe First. Il faut un Iran européen.
Je voudrais quand même qu'on se rende compte de ce que c'est. Aujourd'hui, au moment où on se parle, l'électricité est 5 à 6 fois moins chère aux États-Unis. 5 à 6 fois. Et à cela s'ajoute une autre chose, qui est ce qu'on appelle le IRA, l'Inflation Reduction Act, que donc les États-Unis mettent sur la table, une sorte de subvention aux entreprises qui viennent s'installer. Donc les subventions, elles ont en gros le double bonus, quoi. C'est le double effet qui se coule. Il y a l'électricité moins chère et en plus, ils sont payés pour venir s'installer. Mais est-ce qu'on a les moyens de faire un IRA européen ?
Oui. L'IRA, c'est quoi ? L'IRA, alors ça s'appelle Inflation Reduction. Ça n'a rien à voir avec l'inflation. C'est un plan massif de subventions pour décarboner l'économie américaine. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la planète quand même. Il faut commencer par ça. Sauf que ça fausse la concurrence, exactement. Vous le dites parfaitement. Et quand un industriel dit je vais ouvrir une nouvelle usine à hydrogène, une nouvelle usine à batterie, je fais fabriquer des voitures électriques, il a le choix entre l'Europe et les États-Unis. D'un côté, il a 80% de subventions aux États-Unis, de l'autre, il a 30 ou 40%. Et donc, effectivement, économiquement, il n'a pas de choix. Le mauvais exemple, c'est les voitures électriques. Il y aura une subvention pour les voitures électriques, mais uniquement celles dont une partie importante de la valeur ajoutée, les batteries, etc., sont faites aux États-Unis. L'Europe doit répliquer.
Et pourquoi on ne fait pas la même chose, en fait ? On n'a pas les sous, peut-être ?
Non. Il y a d'abord, si vous voulez, un logiciel européen historique qui était celui de l'ouverture aux frontières, qui a formidablement profité à l'Europe et au monde, d'ailleurs. Sauf que le monde est en train de changer. On est rattrapé quelque part.
Peut-être un peu naïf, quoi.
Alors attention, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le monde est plus riche aujourd'hui qu'il y a 30 ans. L'Europe est plus riche aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Les pays émergents sont développés. Si vous êtes, je sais pas moi, thaïlandais, la classe moyenne thaïlandaise a formidablement profité de la mondialisation. Mais on voit bien que avec un certain nombre de puissants, de pays qui veulent démontrer leur puissance, la Russie, la Chine, les choses changent. L'Iran, il vise pas l'Europe, il vise la Chine. En réalité. Mais nous, on est le jambon dans le sandwich, hein, ouais. Si je peux me permettre. Et donc, il faut que l'Europe change de logiciel.
Combien ça concerne d'entreprises, d'emplois? C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est attention à janvier, attention à février, attention au mois qui arrive.
Non, je suis en train de vous dire attention aux 5 prochaines années, en réalité. Beaucoup oui, il y a bien sûr des difficultés. J'entendais une boulangère, là, qui, sur votre antenne, disait il y a des fermetures. Il faut à la fois traiter le problème de l'urgence, ce que fait le gouvernement avec son bouclier, l'amortisseur dont parlait Bruno Le Maire. Mais le plus fondamental, c'est l'industrie. Et ce qui est en train de se passer, c'est probablement un risque majeur pour toute l'industrie primaire, tous les gens qui consomment beaucoup d'électricité. La chimie, l'acier, le ciment.
L'aéronautique, ces questions aussi de développement, c'est-à-dire pour le coup de développement, si on dit électrique, le directeur général d'Airbus, au moment même où vous nous parlez sur ce micro, vient de s'exprimer en disant que l'Iran était à ses yeux un vrai sujet d'inquiétude. On sent ces dernières heures que tout d'un coup, tout le monde se concentre pour dire attention, l'Iran, c'est le problème.
Il faut convaincre nos amis allemands. Parce que la réalité, on a eu une réunion du patronat européen, c'est exactement pareil que les gouvernements. On a encore des Allemands qui sont dans une logique de dire il faut rester ouvert pour favoriser l'échange. Je crois qu'ils n'ont pas passé le cap de cette nouvelle donne géopolitique.
Il y a aussi des entreprises comme Safran qui décident, par exemple, Safran qui est quand même un de nos géants industriels, qui vient de décider de freiner son développement ici. Et il préfère, en attendant, développer ses usines aux États-Unis ou en Malaisie. Voilà un exemple extrêmement concret. C'est pas de la destruction d'emplois, mais c'est juste du non-développement d'emplois.
C'est une perte d'opportunité, effectivement. En regardant les prix de l'énergie, Safran, mais il y en a d'autres, disent je vais attendre d'agrandir mon usine, où je crois que c'est un agrandissement d'usine à côté de Lyon, parce que le prix de l'énergie aujourd'hui, enfin le prix de l'électricité surtout aujourd'hui en Europe, en France, rend cette usine plus compétitive.
Il y a un autre point d'ailleurs sur lequel vous êtes souvent engagé auprès des politiques mais qui n'avance pas, c'est la question de décorréler l'électricité et le gaz. J'en parle souvent ici le matin parce qu'en réalité, même si ça a l'air technique, c'est fondamental dans ce qui constitue aujourd'hui le prix auquel on paye l'électricité. Pendant longtemps, on était exportateur d'électricité. La France était un des fleurons et donc ça nous arrangeait bien de vendre notre électricité plus cher. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On est obligé d'importer et donc on importe l'électricité plus cher qu'elle ne vaut à être produite. Est-ce que Bruno Le Maire, est-ce que Emmanuel Macron, est-ce que les Européens disent c'est bon, ça va descendre, ou est-ce que ça reste très hypothétique?
Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, oui. On est complètement alignés sur ce qu'on appelle le market design, la fixation du prix de l'électricité. Ce qu'il faut comprendre en 10 secondes, c'est que encore une fois, un baril de pétrole, ça vaut quelque chose, ça s'achète, ça se vend. C'est comme au marché...
C'est un marché mondial.
Voilà, et c'est vraiment un produit qui s'achète et se vend. Un électron d'électricité, il faut le consommer quand on le produit. Donc le marché n'a pas la même constitution, il y a ce qu'on appelle un market design. Donc la France, l'Espagne, l'Italie poussent à ce qu'on sorte de ce système qui a été inventé dans les années 90.
L'Espagne et le Portugal en sont sortis.
Eux ont eu le droit à une exemption temporaire. Et malheureusement, des pays d'Europe du Nord freinent encore. Et donc, on n'arrive pas à trouver un accord européen. Et là, je dois dire que l'égoïsme européen, enfin, le chacun pour soi européen a remplacé le quoi qu'il en coûte. Et c'est très dommage parce qu'on est tous victimes. Les industriels allemands souffrent autant que nous du risque de délocalisation que j'évoquais plus tôt.
Vous êtes le patron des patrons. Il y a beaucoup de patrons aussi.
Porte-parole des patrons.
Porte-parole des patrons, dirons-nous. Enfin, vous êtes président. À un moment, il faut assumer le titre. Vous êtes président du MEDEF. Il y a aussi le petit patronat qui s'inquiète, et notamment les artisans, les commerçants. Vous parliez tout à l'heure des fournisseurs de verre, par exemple. Mais il y a aussi les boulangers qui s'inquiètent. Et Bruno Le Maire, qui était donc sur RMC ce matin, leur a promis une aide supplémentaire. Je dirais qu'on écoute le système.
Il a une facture de 1 000 euros. Et puis, il vient de recevoir sa facture, 4 000 euros. EDF ou un autre fournisseur d'énergie va indiquer sur la facture qu'en fait, ce n'est pas 4 000 euros, c'est sans doute autour de 3 200 euros, c'est-à-dire 20% en moins. Et là, le boulanger va dire, mais 3 200 euros, c'est toujours au-dessus de 3% de mon chiffre d'affaires, j'arrive toujours pas à faire face. Il va déclarer sa facture au guichet de manière très simple au 1er janvier 2023 et sa facture sera ramenée à 2 600 euros.
Est-ce que vous pensez que ça sera suffisamment efficace?
Oui, en tout cas, ça va dans la bonne direction. Effectivement, ce sujet de l'énergie, c'est ça qui est très complexe. Ça concerne des très grosses usines d'aluminium, mais ça aussi concerne le boulanger du coin qui a des fours et qui a une facture d'électricité qui explose. C'est prorata, si vous voulez. Donc le système d'amortisseur automatique, c'est-à-dire sur la facture, plus un guichet, me paraît aller dans le bon sens. Alors, ça couvre pas tout, mais à un moment...
Il va falloir aussi augmenter les prix, c'est-à-dire que tout ça est mécanique, évidemment,
tout
et ça s'entraîne.
Tout ça va nourrir l'inflation.
Est-ce que vous voyez une inflation qui se poursuit, qui continue à augmenter au début de l'année prochaine?
Alors écoutez, je vais vous dire, moi je veux être très prudent, parce que j'ai entendu des tas d'économistes expliquer il y a un an que l'inflation, le pic serait l'été dernier. Ouais. Et on dit maintenant que le pic sera cet été, enfin l'été prochain, 23, je n'en sais rien. Je vois effectivement les industriels obligés d'augmenter leur prix. Pourquoi ils augmentent leur prix? Parce que leur facture augmente, le SMIC a augmenté de quasiment 8% et bientôt 10% si on prend la hausse de janvier. Donc les salaires augmentent, les gens demandent des augmentations et ils ont raison, puisque tout ça nourrit une boucle inflation salaire. Donc je ne sais pas vous dire honnêtement comment l'inflation va se conduire, si j'ose dire, en 2023.
Il y a deux autres aides qui ont été annoncées ces dernières 24 heures. Une aide, notamment donc celle-ci qu'on vient d'entendre de Bruno Le Maire, pour la question de la facture d'électricité. Et puis, il y a la question aussi des aides aux rouleurs. Alors, ça devait être les gros rouleurs, gros bosseurs. Finalement, ça sera les rouleurs tout court, puisqu'il suffira de faire quelques centaines de mètres. Alors, on imagine que tout le monde ne va pas tricher, mais enfin, il suffira de dire qu'on prend sa voiture sans aucun critère kilométrique pour aller travailler, pour toucher ces 100 euros. Cela dit, il y aura pour le coup un critère de revenu, 1430 euros pour une personne seule, 1430 euros net. Est-ce que ça vous paraît une aide suffisante? Il y a beaucoup de gens qui disent, attention, ça va nous coûter plus cher d'aller travailler avec cette aide qui sera de 100 euros pour une année.
100 euros par mois.
Par an.
Ah, ouais. C'est mieux que rien. À un moment, si vous voulez, l'État ne peut pas non plus ouvrir le portefeuille tout le temps. Nous, on a la possibilité, par l'entreprise, de financer un chèque carburant. Certaines entreprises l'ont fait.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que l'État prend sa part, mais vous, est-ce que vous allez prolonger?
Oui, alors il y a ce chèque carburant qui est défiscalisé, qui existe dans l'entreprise. Je n'ai pas le pourcentage d'entreprises qui l'ont utilisé, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a encore 80%, 78% des Français qui prennent leur voiture pour aller travailler. À Paris, évidemment, ce n'est pas le cas. Quand vous êtes en province, évidemment, c'est souvent la seule solution. Et le kilométrage moyen, c'est 27 km par jour. Aller-retour. Donc ça coûte, et quand le prix du gazole ou de l'essence est au prix qu'on
connaît, heureusement il redescend légèrement.
Exactement, ça coûte, et quand on est au SMIC ou juste au-dessus, il y a un coût d'aller travailler.
Donc c'est quand même mieux que rien, mais vous disiez...
Ce qui est dommage, c'est que ça ne va pas cibler sur le nombre de kilomètres. Je comprends que c'était compliqué parce que c'est difficile à mesurer. Mais en réalité, le bon ciblage aurait été de le faire sur les gens qui travaillent
et
qui font.
On nous avait annoncé gros rouleurs.
Oui, mais j'ai entendu ce qu'a dit Bruno Le Maire. C'est-à-dire
ce matin, il dit qu'il veut efficacité et rapidité.
Entre complexité et ciblage, en quelque sorte.
Et donc, ils ont fini par choisir la simplicité plutôt que le ciblage. Mais vous disiez, quand on est en Ile-de-France, on prend un peu moins sa voiture. Enfin, ça va devenir presque plus intéressant de prendre sa voiture que de prendre les transports en commun. Parce que la même journée hier, on apprend en effet qu'il y aura cette aide de 100 euros pour ceux qui prennent la voiture pour aller travailler et que dans le même temps, le pass Navigo va augmenter de 8,90 euros par mois. Les entreprises ont la possibilité de rembourser au-delà des 50% de ce pass Navigo. Est-ce que vous incitez les patrons à augmenter cette aide?
Vous l'avez dit, d'abord les entreprises payent déjà 6 milliards d'euros de versement mobilité pour financer Île-de-France Mobilité, qui fait voyager tout le monde. Pas seulement les salariés. Donc c'est un premier financement. Il y a un deuxième financement qui est le remboursement du pass Navigo, au moins 50%. Ça fait quasiment un milliard, un peu moins d'un milliard.
Attendez, les 6 milliards, c'est en dehors de ce remboursement individuel en note de frais?
Il y a une taxe qui s'appelle le versement mobilité, qui est sur les salaires, qui va augmenter l'année prochaine fortement parce que la masse salariale a augmenté et qui va renflouer le déficit d'Île-de-France Mobilité. Sans d'ailleurs qu'on soit jamais consulté sur comment...
J'avoue que moi-même, je n'avais pas réalisé ça. Autant on sait que
Valérie
Pécresse a frappé à la porte de Bercy et de l'État pour demander des sous. Elle va d'ailleurs toucher finalement 200 millions. Mais enfin, vous, si vous dites que les patrons ont cette taxe de 6 milliards, vous êtes quand même beaucoup plus dans cette participation.
C'est vrai dans toutes les métropoles. Et parfois, les transports en commun, pas le cas en Île-de-France, ne vont pas là où les gens travaillent. Et puis, il y a ce remboursement du pass Navigo. Donc, avec l'augmentation de 8 euros par mois, on va en rembourser 4. Donc le coût supplémentaire pour le salarié, il est que de 4.
Bon. Pour le salarié, hein, évidemment.
Oui, bien sûr. L'entreprise va payer donc 4 euros de plus par mois et par salarié. Et un certain nombre de grandes entreprises vont plus loin et vont jusqu'à 75%. Alors, vous dire combien vont faire sur cette hausse, je suis incapable. Mais un certain nombre vont le faire parce que elles ont besoin de salariés. On est tous à la recherche de salariés en ce moment. Et donc, le coût d'aller travailler, enfin, le coût de transport est un élément d'attractivité.
Donc, vous pensez qu'un certain nombre d'entreprises vont quand même jouer le jeu de ce remboursement de la hausse du pass Navigo. La réforme des retraites. Qui devrait donc arriver à l'Assemblée nationale en janvier. Il y a eu ce communiqué commun de toutes les organisations syndicales, CFDT, CGT, FOCFE, CGC, CFTC, UNSA, Solidaire, UFSU, UNEF, La Voix lycéenne, FAGE, FIDEL, MNL. C'est simple, toutes les organisations syndicales sont unies contre les retraites, sauf vous.
Oui. Écoutez, nous, on soutient le principe d'une réforme des retraites et d'un allongement de la durée du travail.
C'est un mur, hein. Enfin,
oui,
franchement, là,
c'est un mur, mais il y avait déjà eu un mur. Il y a toujours eu un mur contre la réforme des retraites. Il n'est pas nouveau. La réalité, c'est qu'on a fait le choix en 1945 d'une retraite par répartition. C'est les actifs, les salariés qui payent pour les retraités. L'autre réalité, c'est que la démographie fait que malheureusement, on n'a pas tous fait 4 enfants. Et donc, au total, il y a 1,6, je crois, salariés par retraité, et ça descend, et on sait, la démographie c'est la seule science exacte, hein, donc on sait à l'avance qu'il n'y aura pas assez de salariés âges pour payer les retraites. Donc il faut travailler plus longtemps, il faut le faire progressivement, il faut le faire en prenant en compte les gens qui ont travaillé, ce qu'on appelle les carrières longues, les gens qui ont travaillé avant 20 ans, parce que c'est pas la même chose de commencer avant 20 ans que de commencer à 25 ans, en prenant en compte l'usure au travail, mais il faut faire cette réforme. Et il faut pas faire cette réforme pour financer d'autres trucs, comme j'ai pu l'entendre ça là. Il faut la faire parce que...
C'est le président de la République qui l'a dit. Moi, j'aime bien votre ça et là, mais en vrai, c'est effectivement Emmanuel Macron qui, pour justifier la réforme des retraites, a dit on a besoin de ces sous, notamment pour l'hôpital, pour réformer le système de santé.
Je crois qu'il faut faire cette réforme pour financer le déficit de la réforme des retraites. Le corps, enfin, comme le Conseil d'orientation des retraites, dit que on est juste en dessous de 14 milliards. Et j'ajoute un point qui est très important. On est un des rares pays occidentaux où l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé continue à augmenter. Donc c'est une bonne nouvelle. Aux États-Unis,
elle a baissé ces deux dernières années.
Bien sûr, elle a baissé. Donc,
on espère tous qu'elle va rester haute en France. Mais c'est vrai que le système de soins est quand même aujourd'hui fragile.
Oui, mais il est quand même bien meilleur. Allez vous faire soigner aux États-Unis et vous allez voir ce que c'est. Donc, évidemment, c'est toujours pareil. Il faut aussi regarder en comparaison. Et donc, c'est quand même ça le fondamental. C'est qu'on a la chance formidable dans ce pays.
Donc, on ne peut pas, se réjouir, effectivement, de pouvoir vivre plus longtemps et en meilleure santé. Enfin,
exactement.
Nous, on a demandé,
ça n'a pas encore été retenu, que dans la réforme, parce que ce n'est pas la dernière des réformes. La productivité augmente, le temps de travail augmente, la quantité de gens qui travaillent augmente. Donc il faut être capable tous les 3-4 ans, tous les 4-5 ans, de regarder le système. Nous, on a demandé qu'il y ait une clause sur l'espérance de vie, que l'âge de la retraite soit modulé après la réforme en fonction de l'espérance de vie. C'est ça la bonne logique. Ça veut dire
pour le coup que si on continue à augmenter l'espérance de vie, on va travailler proportionnellement, mécaniquement, si on vous suit, plus longtemps.
Oui, c'est ce qui se passe en Suède.
À l'inverse, si comme aux États-Unis, on perdait jusqu'à 2 ans d'espérance de vie.
Ce que personne ne souhaite, bien sûr. C'est les Suédois qui ont fait ça. Et souvent, prendre des idées en Suède, c'est intéressant. Enfin, dans le nord de l'Europe, ils ont mis en place une clause de revoyure régulière pour examiner l'espérance de vie. Je pense que c'est le bon système.
Il y a eu la réforme de l'assurance chômage. Il y a le chômage qui, en effet, baisse, clairement. Le gouvernement qui vise le plein emploi. Il y a eu aussi ce débat à l'Assemblée nationale qui a eu lieu hier sur la question de l'immigration avec la possibilité de régulariser des sans-papiers dans certains métiers en tension. Vous avez entendu sans doute Thierry Marx qui est un peu le patron d'autres patrons, de sous-patrons, la branche en l'occurrence.
Pas de sous-patrons,
pas du tout des sous-patrons, des sur-patrons, mais disons en tout cas une branche, sous-branche des patrons, je dirais. C'est-à-dire des questions des métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Aujourd'hui, ça n'est pas considéré comme un métier en tension. Thierry Marx demande à ce que ce soit reconnu comme un métier en tension et à ce que donc les travailleurs immigrés sans papier puissent être régularisés.
Alors, c'est pas tout à fait. Il demande que ça soit un métier en tension.
Alors, dites-nous les détails, j'ai peut-être pas trompé.
Non, mais c'est pas tout à fait les sans papiers. Ce qu'il demande, et on est d'accord avec ça, c'est que quelqu'un qui travaille légalement, qui a un titre de séjour qui vient à expiration, qui donc du jour au lendemain se retrouve, alors qu'il travaille, qu'il a régulièrement payé ses cotisations, etc., se retrouve du jour au lendemain, parce que son titre expire, dans une situation illégale, soit régularisé et qu'on lui redonne automatiquement un titre de séjour, et on est d'accord. Après, il y a un autre débat qui est plus complexe, qui sont pas d'ailleurs, on appelle ça à tort les sans-papiers, ce sont les gens qui travaillent beaucoup dans la restauration, mais dans d'autres métiers, avec des faux papiers. C'est ça la réalité.
Et qu'est-ce qu'on fait,
ils ont pris ça parce que un employeur, alors je parle pas de travail au noir, le travail au noir ça existe, c'est condamnable et il faut évidemment pas le soutenir. Mais il y a des employeurs qui recrutent des gens qui amènent une carte d'identité, qui présentent un compte bancaire, parce que pour travailler il faut verser ça sur un compte bancaire, donc il y a bien une existence.
Il y a bien un RIB quelque part.
Et le patron n'est pas en capacité, il a pas les moyens ni le droit de vérifier la légalité. Bon. Là, il existe ce qui s'appelle une circulaire Valls, qui date donc du Premier ministre Valls, qui, préfecture, permet à l'employeur de demander la régularisation. Sauf que, aujourd'hui, c'est très hétérogène. J'ose dire, c'est un peu à la tête du client ou à la tête du préfet, si vous voulez. Et donc, ce qu'il faudrait prendre en
compte. Il n'y a pas de critères précis,
si, il y a des critères précis, c'est 5 ans de présence sur le territoire, mais 5 ans. A priori illégal, hein, puisque c'est des gens qui ont des faux papiers.
Oui, donc il y a quelque chose d'un peu complexe, c'est-à-dire que finalement c'est une forme donc, d'acceptation tacite de l'immigration illégale.
D'une certaine manière, et donc il faut trouver un moyen, n'est pas simple, d'harmoniser, si vous voulez, ce système un peu à la tête du client qui varie par département, par préfecture, pour reconnaître qu'effectivement il y a une partie...
Et vous voulez que ça, ce soit mis en place dans la loi immigration qui arrive en janvier.
En tout cas, c'est ce que propose le ministre Darmanin. Est-ce qu'on est prêt à discuter ? Par contre, ce qui n'est pas acceptable et qu'on condamne fermement, c'est les sans-papiers, les vraiment sans-papiers, c'est-à-dire des gens qui travaillent dehors parce qu'ils sont exploités, qu'en général, comme ils n'ont pas de papiers, ils sont à la merci de leur patron, et sans...
Et, y a, et ça, pour le coup, ce sont les patrons,
pour
les patrons que vous ne reconnaissez pas comme les bons patrons.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais enfin, c'est illégal.
C'est illégal, c'est
défendre l'illégalité. Vous voyez, le cas est très différent et je pense qu'il est confus entre celui qui recrute quelqu'un qui lui montre une carte d'identité qui n'est pas valable, mais il ne peut pas le savoir, et le sans-papier.
Et c'est clair. Merci Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF.